Vous écoutez Bel RTL, il est 18h, hein, Bel RTL sort un petit peu spécial. Nous retrouvons en direct depuis Auschwitz Pascal Vrébos et Barbara Mertens. Bonsoir.
Bonsoir à toutes.
Et bonsoir à tous. La nuit est tombée sur Auschwitz-Birkenau, ce camp de 40 km² où de 1940 à 1945 ont été déportés des centaines de milliers de juifs de l'Europe entière, mais aussi des prisonniers politiques polonais, des tziganes, des prisonniers de guerre soviétiques. Les gazages en masse, c'est ici que ça s'est passé. Les fours crématoires, c'est ici qu'ils ont été conçus. Les exécutions sommaires, ce fut ici aussi. Autant de pratiques ignobles dont il reste heureusement des traces ici.
La visite, c'est le choc de la réalité des camps de concentration. C'est voir tous ces signes de l'abominable, toutes ces valises avec ces noms de ceux et celles qui ont été gazés, puis brûlés, tous ces noms, Marie Kafka, Lois Berman, Sarah Tosic, voir ces baraquements, ces fours crématoires, toute cette machine industrielle de la mort sur fond de cruauté indescriptible. Alors bien entendu, ce choc fait réfléchir, ce choc essaye de prévenir d'autres génocides, c'est l'enjeu de ces visites, de ces rencontres, et ce sera bien entendu aussi l'enjeu de cette émission avec des invités, Barbara.
Et tout de suite avec nous Charles Baron. Bonsoir Charles Baron.
Bonsoir.
Vous revenez ici, la première fois que vous êtes arrivé à Auschwitz, vous aviez 18 ans.
J'avais 18 ans, mais j'avais déjà une large expérience concentrationnaire. Depuis 2 ans, je tournais dans les camps de travaux forcés pour juifs, des annexes d'Auschwitz-Birkenau, et je suis arrivé ici dans des conditions différentes des déportés qui arrivaient directement de chez eux. Nous sommes arrivés sans bagages. Pour nous, il a été nécessaire d'en avoir ni chien, ni SS avec des cravaches. Nous avions l'habitude de marcher au pas. Nous avions l'habitude d'avoir peur aussi. Donc, si j'ose dire, ça s'est passé en douceur. Avec nous, le Canada qui récupérait les colis n'a rien eu à faire, par exemple. On nous a emmenés, nous sommes arrivés 500, on nous a emmenés un certain nombre vers les chambres à gaz. Là, exceptionnellement, un second tri a été fait et nous avons été ramenés au camp de quarantaine.
Et Charles Baron, vous en êtes sorti, vous en êtes la preuve vivante, vous nous raconterez votre histoire dans quelques minutes. D'autres invités aussi, bien entendu, autour de cette table.
Bien entendu, Joël Cotec qui a organisé toute une série de rencontres. Nous aurons aussi des historiens, nous aurons bien entendu aussi ces jeunes qui sont partis visiter Auschwitz grâce à Bel RTL. Et nous aurons bien entendu, nous parlons aussi des autres génocides, nous aurons notamment un rescapé rwandais.
Il est 18h02, avant de parler de tout cela, les informations en direct de l'avenue Ariane avec Emmanuel Beugnier.
Il est 18h16, vous écoutez Bel RTL, on retrouve tout de suite Pascal Vrébos et Barbara Mertens en Pologne, au camp d'Auschwitz.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir. Eh bien, nous allons commencer avec Charles Baron, puisque vous êtes, on peut le dire, un rescapé. Vous êtes arrivé ici, vous aviez 16 ans, et vous m'avez dit, pendant le journal, vous avez eu du bol, le bol de ne pas être gazé.
J'ai eu du bol tout le long de mon temps ici. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans dans les commandos d'Auschwitz, et à Auschwitz à 18 ans. J'ai bénéficié, par exemple, avant d'arriver à Auschwitz, j'ai bénéficié du fait que cet hiver silésien que vous voyez aujourd'hui, oui. Et c'est une journée encore tendre.
Je n'ai pas fait froid, qu'il neige.
Il n'y a pas de vent.
Oui.
Et j'ai travaillé au chaud. J'ai été désigné pour un commando après avoir travaillé pendant des mois à l'extérieur, à des travaux durs, puisque c'était un objet de notre présence. Hein. J'ai travaillé au chaud dans une usine, c'est-à-dire que pendant que mes copains crevaient de froid comme je l'avais fait auparavant, moi, j'avais au moins cette sensation d'être au chaud, et c'est important.
Alors vous avez vu aussi quelque chose vraiment d'abominable, c'est des SS qui organisaient vraiment un massacre d'enfants, pourquoi ? Pour se distraire ?
Ah ben à mon avis, il n'y avait pas d'autre solution. Ils les ont habillés de chemises de nuit blanches, ils les ont fait défiler devant le camp de quarantaine à Birkenau en allumant, au contraire des règles de sécurité, tous les projecteurs en grand, c'était une scène de théâtre où on voyait tous détachés terriblement. Eux étaient en grand uniforme, braquaient leurs armes sur ces gosses, et ils leur ont fait faire le tour du camp. Ça fait quand même quelques kilomètres, quand on y réfléchit, pour les amener à la chambre à gaz, en chantant les chants de marche de l'armée allemande.
Et après ?
Après, nous avons su que les gosses avaient étaient morts quand les lumières se sont éteintes et que l'éclairage est devenu l'éclairage normal d'un camp, c'est-à-dire quelques lumignons pour permettre aux SS de ne pas buter sur les trottoirs. Enfin, sur les trottoirs, il n'y a pas de trottoir, disons sur le bord de terre. Et puis, la fumée qui s'est élevée des crématoires, une espèce de fumée noire, rouge, cuivrée. Et on savait qu'ils ont su qu'ils étaient en train de brûler. La chose abominable, c'est que les gosses savaient où ils allaient. Les SS, naturellement, mais les gosses savaient. On leur a fait faire 4-5 kilomètres autour du camp avant de les emmener à la mort. Et nous qui les avons vus passer, enfin nous, moi exceptionnellement, parce que les baraques, vous les avez vues, n'ont pas de vue sur l'extérieur, exceptionnellement j'ai pu les voir, je savais où ils allaient. Et tant d'années après, j'en crève encore.
Mmh. Charles Baron, vous êtes revenu à un moment donné à Auschwitz, beaucoup plus tard, il vous a fallu du temps pour revenir ?
La première fois, il m'a fallu 16 ans. Mmh. Et je n'ai rien vu parce que j'ai chialé pendant 8 jours de rang. Après, j'ai attendu 9 ans. Et puis, un jour, les organisations juives, le Congrès juif européen, entre autres, m'ont demandé de revenir pour accompagner des groupes de jeunes. Je l'ai fait. Et au fur et à mesure que les copains disparaissent, il faut bien quelqu'un pour parler.
Vous alors, estimez que c'est votre devoir, c'est nécessaire, indispensable ?
C'est pas un devoir, moi c'est une obligation. Moralement, je dois... Vous savez, tout le monde le dit, c'est pas une nouveauté. Tout le monde dit, quand il allait mourir, son mot de la fin, c'était de nous dire, si tu t'en sors, si tu fous le camp d'ici, raconte. Alors, il faut tenir parole, je raconte.
Et vous raconterez encore pendant le plus longtemps possible ?
On verra bien.
Joël Kotek, bonsoir. Le 27 bonsoir. Janvier, il y a 59 ans, c'est-à-dire c'est une date d'anniversaire, les Russes entraient dans ce camp.
Oui, vous faites bien de le dire, entraient, parce qu'on ne libère pas, puisque les quelques Juifs qui restaient dans le camp, effectivement, avaient été forcés de quitter dans ce qu'on appelle les marches de la mort. Donc pratiquement, ils découvrent un camp vide, où il reste bien sûr des gens qui s'y sont cachés, et des gens pratiquement mourants.
Donc 7000 personnes, à peu
oui,
près.
Oui, c'est ça. Mmh. Et on se rend compte que c'est quand même un des plus grands cimetières du monde, sinon le plus grand, puisqu'un million de personnes ont péri ici. Donc, ils découvrent. D'abord, ils ne savent pas ce qu'ils découvrent. Ils sont un peu étonnés. Et puis, on a les traces, on a un film, mais le film a été tourné quelques jours plus tard, quand ils réalisent effectivement qu'ils, en fait, ont découvert l'horreur.
Auschwitz. Et qu'il faut filmer.
Qu'il faut filmer. Mmh. De là naîtra d'ailleurs toutes des mythes antifascistes, etc. Hein, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Auschwitz, mais on n'a pas le temps de le dire aujourd'hui.
Alors Barbara, nous avons eu bien entendu de jeunes auditeurs qui sont venus pendant cette semaine assister à ces rencontres et ces colloques. Alors nous les avions déjà entendus il y a une semaine.
La semaine dernière, exactement. Alors Julie Cordier, Julie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors Julie, tu nous avais expliqué que ça te tenait évidemment à cœur d'être ici par ton histoire familiale.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'as-tu vécu depuis que tu es ici ? Tu es arrivée en Pologne samedi, mais Auschwitz c'était aujourd'hui. Quelle image en gardes-tu ? De quoi as-tu envie de nous parler ?
Ben, c'est vrai que quand on rentre, ça fait quand même un choc, parce que bon, moi, il y a ma famille qui est passée, que mes grands-oncles, ils sont tous morts. Mais et je pense pas qu'il y ait plus un point qui m'ait marqué, mais c'est vrai que quand on est arrivé devant l'entrée,
la porte de la mort,
voilà,
c'est ça.
C'est ça, et qu'on se dit que tous les gens sont passés par là, que ça soit Birkenau ou Auschwitz, tous les deux sont une grande source d'émotion. Que quand on peut voir aussi les baraques et tout ça, où ils étaient soi-disant logés, c'est affreux. Et bon, c'est vrai que les douches factices, ça m'a plus marqué, quoi. C'est
des chambres à gaz.
Voilà.
Charles Baron, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cette jeune qui est venue, qui a reçu ce choc ?
Eh bien, j'ai envie de lui dire, quand je parle, croyez-moi, je raconte pas d'histoire, je ne brode en rien, je vais au plus simple, à ce que je peux prouver, à ce qu'on peut prouver, mais faites-moi la chose. On m'a enlevé ma santé, la possibilité d'avoir un métier, un logement, des parents, on m'a tout enlevé. Laissez-moi mon passé et croyez en moi. Parce que c'est la seule condition pour que ça ne revienne pas.
Autre ambassadrice de Bel RTL ici, Jessica Brobald. Alors Jessica, tu avais envie toi aussi, on l'a compris, de venir ici. Quelle est ton image à toi de cette visite d'Auschwitz-Birkenau ?
Je crois que c'est l'ampleur de la folie des hommes. Je m'intéresse au fascisme dans la littérature, et donc je passe quand même pas mal de temps dans les livres. Et avoir pu écouter Monsieur Charles Baron, par exemple, ça m'a fait réfléchir, parce que même si l'auteur sur lequel je travaille pour le moment décrit vraiment très précisément certaines choses.
Rien ne vaut un témoignage.
Rien ne vaut un témoignage, voilà. Et rien ne vaut aussi le témoignage des lieux, je dirais.
Alors, un autre jeune qui est venu, c'est Julien. Je me souviens, quand tu es venu à Bellerté, il t'a dit, oui, c'est vrai, j'ai étudié ça en histoire, j'ai vu des profs, mais je ne me rends pas très bien compte de ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui?
Bien, aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait rajouté le chaînon manquant à toute la compréhension. Mmh. Parce que, à partir du moment où on rentre dans le camp, on a fait l'effort d'imagination, comme dirait monsieur Baron, et tout de suite on réalise un petit peu plus l'horreur, toute la tragédie qui s'est passée.
Quel est le souvenir que tu n'oublieras jamais
de Auschwitz?
D'ici, oui, de cette visite.
Ce qui m'a surtout frappé, c'est la rectitude, en fait. Tout est bien ordonné, tous les baraquements sont bien alignés.
C'est industriel.
Oui, c'est exactement ça, c'est industriel. Et c'est très impressionnant parce que c'est au fond comme si c'était tous des petits soldats alignés. Mmh. Et ça rajoute encore dans l'horreur.
Et qu'est-ce que tu auras envie de dire la semaine prochaine quand tu rentreras en Belgique à des gens de ton âge?
À des gens de mon âge,
Oui. Tu vas leur parler, ils vont poser des questions.
Et tu vas raconter, oui.
Oui, tout d'abord, on va raconter. Et je pense que c'est peut-être pas le plus important, quoique. C'est vraiment, il faut se rendre compte par soi-même, il ne faut pas se contenter d'être un petit peu passif et d'assimiler ce qu'on nous dit, il faut vraiment aller voir sur place pour se forger sa compréhension et sa propre connaissance.
C'est ce que tu nous avais expliqué la semaine dernière, on avait eu un peu de mal à comprendre, mais c'est dans le but de témoigner.
Oui, c'est ça, il faut passer du stade passif au stade actif, donc on a appris et maintenant on apprend aux autres.
Alors Joël Kotek, vous êtes du centre de documentation juive contemporaine, c'est vous qui avez organisé, j'ai envie de dire, toutes ces rencontres, tout ce colloque, toutes ces visites de jeunes et notamment de jeunes journalistes. Alors quel est le but, quel est l'enjeu de cette semaine?
Mais l'enjeu, c'est effectivement de... Vous savez, le métier de journaliste est un métier difficile. Les journalistes sont amenés à parler de beaucoup de choses, quelquefois trop vite. Et donc, on considère qu'il est urgent et nécessaire et très important, effectivement, d'apprendre et aux jeunes journalistes, donc aux gens qui vont former l'opinion de demain, et vous le faites très bien, de dire ce qu'est un génocide et ce qu'il n'est pas, de rappeler, effectivement, qu'il y a eu Auschwitz et aussi qu'il y a eu le Rwanda. Donc, c'est de préserver la mémoire d'Auschwitz et aussi de faire de cette mémoire une mémoire vide. Une mémoire vive qui doit concerner aussi le présent, et donc qui doit être, en quelque sorte, pas seulement morale, mais qui doit être politique. Je crois que moins la morale que la politique.
Alors, une jeune journaliste, il y en a une autour de cette table, future journaliste, c'est Virginie Pironon. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Alors Virginie, tu es élève à l'École supérieure de journalisme de Lille, tu es donc toi aussi ici pour une semaine. Alors Virginie, toi tu t'es intéressée au sort des enfants ici, à Auschwitz-Birkenau. Alors, que reste-t-il de leur passage ici?
Il reste très peu de choses en réalité quand on sait que plus de 200 000 enfants juifs sont morts ici à Auschwitz. Dans un des blocs du camp, une salle leur est dédiée et au cours de la visite, j'ai pu voir, entre autres, une poupée en porcelaine brisée, des chaussures, des gants, des bonnets de ces enfants qui, pour la majorité, ont été gazés dès leur arrivée. Il leur était en effet difficile d'échapper à un système bien rodé. À Birkenau, écrit Primo Levi, les enfants étaient comme des oiseaux de passage. Au bout de quelques jours, on les transférait au bloc des expériences ou directement dans les chambres à gaz. Ceux qui ont échappé font figure d'exception. D'abord, il y avait les enfants qui faisaient plus que leur âge, à partir de 13-14 ans, en fonction des besoins du camp. Autrement dit, si on avait du travail pour eux, s'ils pouvaient se rendre utiles, ils pouvaient éviter la sélection et donc se retrouver au camp avec les adultes. D'autres enfants, et en particulier des jumeaux, ont servi aux expériences médicales du docteur Mengele. On trouvait également des enfants dans deux camps familiaux. Le premier était réservé aux Tziganes et le second à des familles tchèques. Et au total, ce sont 20 000 enfants qui ont été faits prisonniers. Et à la libération du camp, seuls 600 d'entre eux étaient encore en vie.
Alors, il y a eu des naissances aussi ici à Auschwitz-Birkenau.
Oui, c'est effectivement une des questions que nous nous sommes posées cet après-midi au cours de la visite. Et je vous propose d'écouter notre guide Anthony Stanchek.
Il y avait des naissances dans les camps. Les nouveau-nés étaient assassinés immédiatement après la naissance. Presque tous. Vers la fin, en 1944, ça arrivait que quelques nouveau-nés ont été cachés dans les baraques et beaucoup de femmes qui s'en occupaient, qui faisaient tout leur possible pour les sauver.
Et est-ce qu'il y a des enfants qui ont survécu?
À la libération, parmi ces 7000 détenus qui étaient retrouvés dans les camps, il y avait près de 600 enfants.
Voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce reportage Virginie, et on sent que ça a été profitable cette semaine de formation.
Charles Baron, vous avez entendu ces jeunes, quel est votre sentiment?
Je me dis peut-être qu'ils m'ont écouté, Peut-être qu'ils m'ont entendu. Peut-être qu'ils transmettront. Peut-être que leurs enfants ne connaîtront pas des situations pareilles. Je suis grand-père maintenant. Je tremble toujours dans ce genre de choses. Et lorsque je reviens aujourd'hui, bon, c'est déjà, disons, des jeunes d'un âge différent, avec déjà une certaine maturité. Et je ne viens jamais avec des très jeunes. Moi, il faut qu'ils aient 16 ans. Ma femme a insisté, c'est l'âge auquel j'ai été déporté, c'est l'âge auquel mes petits-enfants sont venus, c'est l'âge auquel je considère que je peux parler avec eux. Derrière moi, dans peu de temps, quand nous ne serons plus que des souvenirs, c'est leur conviction qui fera quelque chose. Alors, j'ai espoir. Il faut que quelque chose passe. Et s'ils le font passer, ben, je les remercie à l'avance.
Vous êtes venu ici, Charles Baron, avec vos petits-enfants ?
Oui. Chaque fois que j'ai un petit-enfant, j'en ai 4. La dernière n'est pas encore venue. Mais chaque fois que j'ai un de mes petits-enfants a atteint 16 ans, mon âge de déportation, ma femme m'a dit « tu pars avec lui, tu pars avec elle ». Et je dois dire que mon aîné a attendu 4 ans avant de parler. La fille m'a écrit une lettre absolument fastueuse que j'ai lue hier soir. Ça a été une chose elle a saisi tout. C'est une femme, c'est différent. Quant aux autres, il nous faut le temps de la maturité. Et la dernière, il faut le temps qu'elle vienne avec moi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Charles Baron.
Joël Cotec, une conclusion ?
Non, oui, une conclusion. De dire c'est vrai qu'il y a un travail de mémoire, mais aussi un travail d'histoire. Et donc, il est très important d'avoir avec nous Charles Baron et d'avoir des historiens. Et donc, le CDJC, qui, je souligne, est quand même le plus grand centre de documentation et de recherche d'Europe, a tenu quand même à associer les meilleurs historiens belges
qui est
et
à
français.
Paris, hein.
Effectivement, à Paris, sur la question. Et c'est très important que ce soit aussi un sujet d'histoire.
Merci beaucoup, Joël Cotec. Il est 18h30. On retrouve tout de suite avenue Ariane-Emmanuel Beunier pour les titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant. Ici en direct d'Auschwitz.
Émission spéciale, nous sommes en direct depuis Auschwitz avec cette fois-ci Thomas Gergely, le directeur de l'Institut d'études du judaïsme, Annette Wiewiórka, chercheuse CNRS et l'historien Maxime Stenberg. Alors, monsieur Gergely, bonsoir.
Bonsoir.
On s'est retrouvé tout à l'heure dans une même salle à Auschwitz.
Effectivement, oui.
Et vous m'avez dit, tiens, il y a une photo et je me trouve dessus.
Je pense. En tout cas, c'était une des photos de ce qu'on pourrait appeler la ghettoisation à Budapest, puisque je suis un homme public et d'habitude, je me livre pas. Ici, la circonstance est exceptionnelle. Alors, effectivement, je suis né dans le ghetto de Budapest. Et ma foi, si je suis là ce soir pour vous parler, c'est que le hasard ou la destinée ou tout ce que vous voudrez a fait que les Russes sont entrés dans Budapest 3 jours plus tôt que la date qui a été prévue pour que je me transforme en autre chose. Et en attendant, bien sûr, la population juive de Budapest a été ghettoisée. Et je vous ai montré une photo où l'on voit effectivement ce transfert de la population juive de ces lieux d'habitation ordinaires dans le ghetto. Alors je ne me suis pas vraiment vu là-dessus, mais la photo est réduite et je crois m'avoir vu, en tout cas vu, sur des photos plus complètes, quelque part là. La rencontre est étonnante et heureuse, puisque j'ai le bonheur de me voir en photo.
Thomas Gergely, vous aussi, vous avez mis du temps à venir ici.
Oui, j'ai mis 25 ans entre la première sollicitation et celle, le jour où j'ai finalement décidé d'y aller. D'abord sur le principe que je me suis dit, les choses ayant été ce qu'elles ont été, moi je n'irai pas de ma libre volonté à l'endroit où on a voulu me tuer. Et puis après, j'ai changé d'avis et je me suis dit qu'au contraire, il serait intéressant que je puisse passer cette fameuse porte et ensuite librement la repasser. Voilà.
Alors Maxime Sterbet, vous êtes historien, on vous connaît comme historien, mais bon, vous avez dans ce camp, votre mère a disparu, elle a visiblement été gazée, et votre père en est sorti.
En est sorti, oui. Et disons que mon voyage n'est plus un voyage personnel. Je viens ici en apportant ma contribution au séminaire qui est organisé. Je dis n'est plus un voyage personnel parce que je sais que je ne peux pas savoir ce qu'il est advenu dans le détail de ma mère. Les recherches que j'ai faites peuvent établir, par exemple, que son convoi, le 11e, seulement 200 100 femmes entrent dans le camp de concentration, deviennent des détenues, mais nous n'avons plus assez de documentation, et notamment des fiches d'immatriculation, pour connaître nominalement ces déportés immatriculés. Et donc, nous ne savons toujours pas qui a disparu, qui n'a pas disparu.
Ce que vous dites, c'est finalement que vous avez du mal à faire le deuil de votre maman parce qu'il vous manque quoi ?
Il me manque le savoir sur ce qu'il en est advenu, effectivement. Je sais qu'elle a disparu sans laisser de traces, que sa dernière trace, c'est sa mention sur la liste de déportation. Nous savons exactement qui a été déporté.
Mais Maxime Zenberg, ce qui est étonnant, pour le profane que je suis dans ce domaine, c'est que votre père ne vous en a finalement que très peu parlé.
Ah oui, parce que mon père a été séparé de ma mère. Oui.
Immédiatement.
C'est ça la sélection.
Immédiatement la sélection.
La première sélection, on sépare les hommes des femmes. Mais la sélection à l'arrivée à Birkenau. Pas la sélection qui se fait par après.
Oui, mais après, quand il en est sorti,
il n'a plus de contact. Il n'apprend
plus rien. Mais avec vous,
rien.
Est-ce qu'il vous en a parlé de ce qu'il a vécu ici? Comment est-ce qu'il en a échappé? Comment est-ce qu'il a pu... Est-ce que vous en avez parlé?
Il m'en a donné des prix. J'appartiens à une génération qui sait et qui n'a pas besoin de connaître. C'est en quelque sorte un savoir inné, ou du moins une génération qui croit savoir. Et disons que le travail de l'historien, c'est évidemment d'aider à comprendre, d'aider à donner un sens à ce qui est arrivé.
Mais il n'évoquait jamais ce qui s'est passé ici, en famille?
Très rarement, très rarement.
Et comment expliquez-vous cela?
Mais je crois que c'est une expérience qu'il ne voulait pas communiquer. C'est une souffrance qui lui était personnelle. Il n'avait pas besoin de donner des détails. Et il pensait que j'étais trop jeune. J'avais 9 ans quand il est revenu. Que j'étais trop jeune pour l'entendre. Et puis qu'il était trop tard pour me le dire.
Annette Wiewiórka est avec nous aussi. Bonsoir, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous participez donc à cette semaine de formation de ces étudiants en journalisme. C'est important pour vous de forger ces journalistes à dire les choses, à bien les expliquer, c'est essentiel.
Et moi, je suis comme mon collègue Maxime. Mon métier est de faire de l'histoire et je suis doublé aussi d'un prof. Donc quand je suis ici, je suis un peu là comme un prof spécialisé dans les domaines qui intéressent ici les journalistes.
Oui. Mais vous avez quand même écrit un livre qui s'appelle, je crois, Auschwitz raconté à ma fille.
Expliqué à ma fille.
Ah, expliqué. Mais,
oui, j'ai écrit ce livre qui était une commande. C'est-à-dire, c'est un livre que l'on m'a demandé, que j'ai écrit en jouant tout à fait la règle du jeu, puisque Mathilde, ma fille, avait l'âge, à l'époque où je l'ai écrit, des enfants, enfin, ou des jeunes ados auxquels ce livre s'adressait. Et je pense avoir souhaité faire dans ce livre une leçon d'histoire sur ce qu'avait été Auschwitz.
Comment parle-t-on d'Auschwitz aux enfants?
Écoutez, moi je crois qu'il y a deux choses. Ici, on est sur le site, on est dans un musée. Ce musée a maintenant presque 60 ans d'âge. Et il est aussi fascinant de voir à quel point les lieux, les expositions, les thèmes abordés se sont modifiés. Alors, comment est-ce qu'on parle? Je crois que quand on est en situation d'enseignement, la chose principale, c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé et d'apporter, quand on le peut, parce qu'on ne le peut malheureusement pas toujours, des éléments de compréhension. C'est-à-dire, je crois que la position pédagogique est une position d'abord d'écoute de ce que les jeunes savent, parce que aujourd'hui, c'est pas le cas quand Maxime ou moi nous avons commencé à travailler. Aujourd'hui, il y a une sorte de référentiel un peu flou, mais un peu général. Tout le monde sait quelque chose. Tout le monde a vu des films. Tout le monde a entendu la radio, vu la télé. Donc, écoutez un peu ce qu'ils savent là où nous estimons que ne savent pas ou savent aborder ou savent mal. Et surtout apporter de la raison, non dans ce qu'il s'est passé, mais le maximum de raison et d'intelligence dans l'explication. C'est notre rôle, à la fois quand nous sommes chercheurs, c'est-à-dire quand nous essayons de construire des récits de ce qui s'est passé et quand nous sommes pédagogues, c'est-à-dire quand nous enseignons.
Eh bien, on se retrouve après la pause pour la suite et la dernière partie de cette émission en direct depuis Auschwitz. Toujours en direct depuis Auschwitz. Alors, un petit mot peut-être d'abord à Joël Kotek. Joël Kotek, votre idée dans cette réunion, dans ce colloque, c'était aussi qu'à partir d'Auschwitz, on puisse aussi réfléchir sur d'autres génocides.
Oui, effectivement, l'histoire ne s'est pas arrêtée, n'a pas commencé à Auschwitz, elle s'est pas arrêtée à Auschwitz. C'est pour nous un génocide sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est une rupture radicale, mais on a souvent dit plus jamais ça.
Voilà, et on fait finalement, c'est toujours ça.
Pas toujours ça, mais
souvent ça.
Et c'était pour moi l'expérience du Rwanda.
Alors justement, ici, nous accueillons maintenant Révérien Ruzangwa. Bonsoir. Alors Révérien, vous avez vécu le génocide rwandais, puisque en plus 42 personnes de votre famille,
43
personnes sont mortes.
Oui, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous dire que c'est pas, il y a jamais eu le génocide rwandais.
Oui.
Il y a eu le génocide des Tutsis. Et donc, moi, je suis rescapé du génocide des Tutsis depuis 1994.
Oui.
C'est-à-dire que j'avais mes 6 frères et sœurs, il n'y a que moi qui reste, et, y compris les 43 personnes, toute ma famille.
Et vous l'avez vécu, vous avez vu ce génocide?
Oui, j'ai à l'âge de 15 ans.
Oui.
Comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai porté des coups de machette.
Oui. Mais vous en portez les cicatrices d'ailleurs.
Les cicatrices d'ailleurs, un bras coupé, j'ai 2 lances dans les côtes gauches.
Oui.
Un œil de moi, est-ce que tout ce que vous pouvez pas voir, qui est caché.
Mm-hmm. Alors, quel est le sens de votre visite ici à Auschwitz, Révérien?
Ben écoute, le sens de mon visite à Auschwitz, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je visite Auschwitz. Mm-hmm. Moi, je connaissais que mon propre génocide. Mm-hmm. Donc ça m'a beaucoup aidé, surtout pour faire ma mémoire.
Mmh.
10 ans après, puisque dans quelques mois, il y aura ce triste anniversaire du génocide, comment vous sentez-vous? Comment vivez-vous aujourd'hui?
J'essaye de garder la forme, même si ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'essaye de toujours essayer d'en parler là où je peux. Parce que si je suis survivant, j'ai un devoir d'abord de témoigner.
Oui, vous êtes devenu une sorte de militant de la mémoire.
Tout à fait.
Vous vivez toujours au Rwanda?
Non, je vis en Belgique.
Eh bien, en tout cas, merci de votre visite. Je reviens maintenant à Madame
Vievurka,
avec une question concernant l'actualité. On a vu dans la presse toute une série de photos qu'avaient pris les services britanniques, services secrets britanniques et l'aviation britannique, notamment d'Auschwitz. Il y a une photo où on voit d'ailleurs des cheminées. Alors ma question est simple, elle a été posée par beaucoup de journaux. C'est pourquoi finalement les Alliés n'ont rien fait? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'ils n'auraient rien pu faire?
Il faudrait dire ce que veut dire savoir. Ces photos aériennes n'ont pas été prises parce que l'on recherchait les camps. Elles ont été prises parce qu'on recherchait des usines, c'est-à-dire des lieux stratégiques à bombarder. Et un cinéaste qui s'appelle Farocchi a extrêmement bien analysé la photo qui figure d'ailleurs dans ce musée, qui a été ressortie des archives américaines, pas britanniques. Et il dit, on n'a pas vu parce qu'on ne cherchait pas. Et finalement, on ne voit que ce que l'on cherche à voir. Et il dit, c'est seulement après le feuilleton Holocauste que sur ces photos aériennes, on a indiqué Mirador, chambre à gaz, baraque, et qu'on a vu le camp parce qu'on cherchait le camp. Donc, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Nous, aujourd'hui, nous voyons tout. Nous sommes devenus très, très intelligents et nous avons une acuité visuelle extraordinaire. Parce que nous sommes à 60 ans de l'événement et qu'entre l'événement et maintenant, tout un travail historique et tout un maintien de cette question dans l'actualité a été fait. Mais pour les Alliés, Auschwitz ne représentait quasiment rien. Et on peut dire aussi, bon, si on pousse la discussion, que peut-être qu'il y a eu aussi, puisque des demandes avaient été faites de bombardement, une inquiétude, mais je crois que fondamentalement, ces photos aériennes ne visaient pas la recherche des camps. Ah, oui. Et ça pose le problème que posait notre ami polonais Constantin Gebert, qui est celui de qu'est-ce qu'aujourd'hui on ne perçoit pas, qu'est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas, tout à la fois de la criminalité ou des dangers qui sont ceux de notre monde d'aujourd'hui.
Vous venez de souligner qu'aujourd'hui, on voyait mieux. Il faut préciser que pendant 15 ans, il y a quand même eu un grand silence sur ces camps de la mort, qu'on n'en savait rien. Il a fallu attendre le grand procès, le procès Eichmann, pour que ça sorte, que ça soit...
Il y a eu un grand silence... Il ne faut pas exagérer le silence. La mémoire a toujours été maintenue dans certains lieux, mais pour le grand public. C'est-à-dire que la Shoah n'était pas un sujet d'éducation générale, n'était pas un sujet aussi d'indignation rétrospective comme il l'est aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est après le procès à Eichmann que... petit à petit et très souvent avec beaucoup de polémiques, cet événement est vraiment rentré et dans l'histoire et dans l'imaginaire aussi.
Alors ici on se trouve vraiment à Auschwitz, on a fait une visite, tous les gens qui font la visite sont vraiment bouleversés. Alors j'ai envie de vous poser une question à tous, j'ai pas qu'envie de répondre. Il y en a encore certains qui font du révisionnisme. Alors comment aujourd'hui est-ce encore possible et est-ce que cela existe de moins en moins ou de plus en plus?
Non, ce que j'ai envie de dire,
c'est Joël Kotek.
Oui, Joël Kotek. Non, c'est pour dire que, certes, il y a du révisionnisme, mais je crois que les révisionnistes, les négationnistes, faut-il dire, en ce qui concerne la Shoah, n'ont pas beaucoup d'avenir, parce que, il y a...
Ou les indifférents, disons.
Il y a toujours des indifférents, mais pour reprendre un peu cette question-là, on parle d'Auschwitz et effectivement le fait de ne pas vouloir voir, mais rappelons-nous quand même du génocide du Rwanda. Pour revenir au génocide du Rwanda, on a assisté en direct à un génocide, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu qualifier de ce qui se passait de génocide, et les Belges, il faut quand même le rappeler, et les Français ont laissé, et Révérien n'a pas voulu le dire parce qu'il voulait sans doute être poli, mais il a ça sur le cœur, les Européens, l'ONU, a laissé faire ce génocide-là.
Oui, Révérien, vous avez ce même sentiment? On n'a pas voulu voir, qu'on a laissé faire. Mais
tout à fait, je peux dire aussi, il y a une grande responsabilité de la presse. Comme vous avez vu, la colère qui tuait les Hutus, qui venait de commettre un génocide de Rwanda, qui était au Congo, a été plus médiatisée que le génocide des Tutsis.
Qu'aurait-il fallu faire, Révérien?
Il aurait au moins montrer ce qui s'est passé au moment du génocide, que le public soit informé. Aujourd'hui, il y a des Français qui ne savent pas le rôle de leur temps au mois du génocide.
Thomas Jagély, même question.
Oui, non, je voudrais ajouter dans le fil de ce qui a été dit, c'est que ce genre de visite me semble très important parce que en ces temps de résurgence de l'antisémitisme, ne nous cachons pas, et de sa banalisation, je crois...
Vous pensez vraiment, vous voyez,
mais bien
une banalisation
sûr.
De l'antisémitisme.
Mais banalisation, écoutez, je ne vais pas vous donner d'exemples trop précis, mais il y a des organismes qui s'organisent en voulant oublier qu'il y a aussi de l'antisémitisme. C'est un jeu politique aujourd'hui. C'est du bien, c'est du penser, correctement penser aujourd'hui.
Et vous êtes inquiet?
Et je suis inquiet, et je voudrais dire ceci, surtout, c'est que ce genre de visite doit... apprendre et faire comprendre des visus ici, finalement cette phrase de Sartre dans la réflexion sur la question juive après la guerre, que Sartre avait dit ceci, avant la guerre, l'antisémitisme était une opinion, depuis la guerre c'est un délit, et je crois qu'effectivement il y a des délits de pensée, mais oui, bien sûr, parce que certains de ces délits conduisent au crématoire.
Annette Vivorka, vous êtes d'accord? On assiste depuis quelque temps à une montée de l'antisémitisme?
Écoutez, moi j'ai regardé l'ouvrage que Joël Kotek a consacré à la caricature antisémite arabe.
On en avait parlé
Et dont la presse française a rendu compte du bout de la voix ou du bout de la plume, pour ne pas dire rien du tout.
C'était pas le cas en Belgique. Hein, c'est pas le cas en Belgique.
Quand j'ai vu ces caricatures, quand j'ai vu aussi que c'était des caricatures dans des journaux qui avaient des tirages à des millions d'exemplaires, c'est-à-dire que c'était pas un petit machin obscur, que on reprenait toute la thématique du peuple déicide, les choses les plus atroces, les plus incroyables. Oui, quand j'ai lu ce livre, je dois avouer que j'ai eu peur. Je ne crois pas que la résurgence de l'antisémitisme dans des pays comme la France soit mette en danger la vie des Juifs. Mais je pense que la haine antisémite qui se déverse avec à l'état pur, avec une extraordinaire brutalité, dans un très grand nombre de pays, est un vrai danger.
Quelques mots, Madame Vievurka, à propos d'un mot, le mot Shoah. Il a été difficile à trouver, finalement. Est-il le bon mot pour décrire ce qui s'est passé ?
Écoutez, il n'a pas été si difficile à trouver, puisque c'est le mot qui a toujours été employé dans toute l'activité commémorative en Israël, dès la fin de la guerre. Ce mot s'est acclimaté en Europe. Il était déjà utilisé par l'Association des profs d'histoire géo en 1978, lors du premier colloque qui s'appelait « Enseigner la Shoah ». Et il a été acclimaté surtout par l'œuvre de Claude Lanzmann, « Shoah ». Donc, c'est un mot qui a le mérite de désigner ce qui s'est passé pour les Juifs. L'inconvénient, peut-être, de verrouiller un peu cette question-là et t'empêcher de voir qu'il y a des points communs entre ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, ou dans un passé encore plus reculé avec les Arméniens.
Eh bien, Barbara, on va peut-être maintenant terminer, parce que l'heure est là, par nos jeunes qui ont été à Auschwitz. Et la question qu'on va leur demander, c'est peut-être quel est le mot qui pourrait résumer toute cette semaine.
On va commencer par Julien. Julien, si tu veux bien, je ne sais pas si tu as eu le temps de penser, de le trouver, ce mot, ce bon mot, le bon mot pour toi.
Le bon mot serait poignant. Poignant, bouleversant.
C'est ton sentiment aussi.
Oui, c'est ça, exactement.
Oui.
Jessica ?
Je n'ai pas qu'un seul mot, c'est plutôt peur qu'on oublie et qu'on recommence.
Et Julie ?
Mettre tout ce qu'on a vu pendant cette semaine en un mot, je pense pas que ça soit vraiment possible. Et je suivrais vraiment Julien en disant que c'est vrai que c'est bouleversant de voir ça.
Eh bien, on a commencé, Barbara, l'émission avec Charles Baron, rescapé ici. On va la terminer avec vous. Quelle est la conclusion que vous avez envie de donner à cette émission, Charles Baron ?
Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'espoir. On a évoqué une montée d'antisémitisme que moi, personnellement, je crains. Un antisémitisme qui ne vient pas des milieux traditionnellement antisémites, mais de l'autre bord, c'est ce qui me fait le craindre. Mais je pense que ces jeunes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui ont montré beaucoup, plus que de la curiosité, un intérêt certain, sont à même de pouvoir combattre, parce que eux savent maintenant, ils savent où mène l'antisémitisme, où mène ce genre de racisme. Alors, gardons espoir.
Merci Charles Baron.
Ce sera la conclusion. En tout cas, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette émission. Merci aussi à notre réalisateur, Vianne Etkin, qui a organisé la liaison satellite.
Et on se retrouve dans un instant.
Bel RTL. Bel RTL.
Et la pensée du jour pour terminer, bien entendu, elle est de circonstance, elle est signée Albert Einstein. Le monde est trop dangereux pour qu'on y vive, non à cause des gens qui font le mal, mais à cause de ceux qui les laissent faire sans bouger. Et bien voilà, maintenant se termine donc cette émission qui a été faite avec le soutien du ministre-président de la Communauté française.
Et on remercie encore vivement et chaleureusement nos invités qui se sont succédés à cette table, Joël Kotek, Thomas Gergely, Monsieur Baron, Maxime Steinberg, Réverien qui est encore là avec nous, Julie, Jessica et Julien qui étaient nos trois ambassadeurs et Madame Vievurka qui nous a apporté un éclairage très intéressant à propos de cette visite, il est vrai, bouleversante. Pascal, je pense qu'on va garder ça en mémoire très longtemps.
Sûrement, et on se retrouve, on vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Nous, on se retrouve jeudi à Bel RTL le soir.
Très très bonne soirée à toutes et à tous.